C'est mercredi et comme tous les mercredis à 21h sur Radion, c'est Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Alors il a été extrêmement patient et je suis très heureux enfin de le recevoir à bord de notre Wagon Livre. Il est une figure locale dans Lyon, je crois pouvoir le dire, sa modestie dut-elle en souffrir. Il est une figure locale très connue. C'est Patrick Bénard. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Yannick.
Alors je suis très heureux, je me répète, mais je suis vraiment très heureux. Je t'ai fait attendre entre le moment où je me suis procuré ton avant-dernier livre au Salon du Livre de Paris, au mois de mars 2011, où je t'ai rencontré et où je me suis procuré la fiction dont il va être question ce soir et qui a pour titre « Dans la tête » de Robert Smith, paru aux éditions Eddy Livre. Alors, je vais te présenter, si besoin, encore aux auditrices et auditeurs de Radion, mais on n'est jamais trop prudent. Alors, tu as été employé de banque pendant 12 ans.
Ouais.
Tu as été animateur de radio locale sous le pseudonyme, le nom de Bétric.
Ouais,
me disais hors micro que tu as été, historiquement, le premier... la première voix d'une radio locale dans Lyon.
Ouais,
c'était toi.
C'était en décembre, pas dans Lyon, à Auxerre.
À Auxerre, alors, pardon. Ratifié,
ouais, parce que les premiers, ça serait...
C'est Triage FM, il faut le dire.
Triage FM,
depuis 1980.
Mais à Auxerre. À Auxerre, la radio s'appelait à l'époque Radio Auxerre.
Donc, animateur de radio locale, rédacteur de chronique dans un hebdomadaire qui n'existe plus...
Non. Malheureusement,
cher à ton cœur et qui avait pour titre Détente.
Détente, oui.
Créé par un personnage hors du commun.
Oui, par Jean-Pierre Marie qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Heureusement, je crois que tu l'as reçu il n'y a pas très longtemps, comme invité Barbara Moreau avec ses éditions Kikebab a eu la gentillesse de pouvoir sortir un livre de petites qu'il avait fait. Et je suis ravi qu'il ait eu le temps de sortir, qu'il ait pu le voir. Et voilà, ça a été... Bon, il est mort un peu trop vite, à mon avis. Mais bon, c'est la vie qu'on est, malheureusement.
Tu as aussi été critique cinéma dans Lyon Républicaine. À l'heure actuelle, on peut lire tes chroniques dans le supplément culturel de Lyon Républicaine chaque samedi.
Lyon Mag. Mais là, pour le coup, c'est consacré à la musique.
Voilà, on est d'accord. Pour Lyon Mag, c'est la musique. Tes premières amours ?
Oh ben la musique, oui, c'est les premières amours. Dès mon plus jeune âge, oui. Avant le cinéma, mais le cinéma est venu assez vite quand même.
Nous rappellerons que tu as été l'initiateur en 1989... de la revue Cinémanie, tu en as même été responsable.
Oui.
Alors il y a l'épisode migénois de l'Escale.
Oui.
Tu as été en charge d'un café culturel, expérience qui malheureusement n'a pas été reconduite.
Non, c'est la faute, comme on dit, c'est la faute de personne, sinon des pouvoirs publics, puisque j'ai été pris sous un certain type de contrat et le Pôle emploi ne pouvait plus subvenir aux besoins. Et donc, alors on se retrouvait devant un paradoxe qui consiste à ce qu'un employé est satisfait de travailler dans un endroit, son directeur aussi souhaite le garder, mais le Pôle emploi chargé de trouver du travail aux gens, a priori, n'a pas pu le faire et donc on était obligé de me licencier. Voilà.
Patrick Bénard, qui est ce soir devant le micro de Radion, n'en est pas à son premier livre. Alors, un rappel bibliographique, un polar aux éditions Nicta, en collection Petite Nuit, qui a pour titre Les îles du désert et qui nous ramène à une période que les gens de moins de 30 ans n'ont pas connue.
Oui, presque,
à l'époque, donc, Patrick, où il y avait une discothèque dans un village qui s'appelle
Méré, oui.
Discothèque qui
une discothèque rock.
Avait pour nom
L'Abreuvoir.
Ouais, et toujours, au début de tes livres, une petite playlist.
Voilà,
c'est
une playlist. Là, en l'occurrence, c'était la playlist vraiment qu'on pouvait entendre typiquement quand on allait dans cette discothèque-là, hein, à l'Abreuvoir, les samedis soirs. Et bon, fallait être très courageux, mais comme c'était la seule discothèque rock dans le département, et voire même dans, peut-être en Bourgogne, je ne sais pas, à l'époque, bah, ma foi, il y avait du monde, et puis voilà, c'était l'occupation. Il n'y avait pas grand-chose à Auxerre au niveau culturel à ce moment-là. Contrairement à maintenant.
Les îles du désert, donc, de Patrick Bénard, c'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant.
Oui, il est sorti en 2001.
2001. Alors ensuite, il y a les Chroniques frénétiques, une histoire intime du rock, un écrit qui a connu un accueil retentissant.
Oui, alors, à la fois dans le bon sens du terme.
Primé,
oui, si on peut dire, puisque j'étais lauréat du mensuel Technicart. Qui faisait un concours de manuscrits pour l'occasion, et donc qui a vu une première édition sous forme de qui était éditée en supplément d'été du journal du mensuel Technicart, et puis qui est ressorti un petit peu plus tard avec un chapitre supplémentaire dans une autre maison d'édition qui s'appelle The Book Edition. Et c'est vrai que c'est presque une suite, mais on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. C'est presque une suite des Îles du Désert, dans la mesure où on retrouve les deux mêmes personnages, mais on les suit à travers leurs albums préférés. Voilà, chaque année correspond un album.
Une déambulation.
Voilà,
parmi
et on les voit évoluer, on les voit se transformer.
Je mentionne toujours sous la plume de Patrick Bénard 450. Alors c'est un recueil de nouvelles signé de toi et d'Emmanuel Le Floch que tu as connu au théâtre
oui.
d'Auxerre,
oui.
rue Joubert.
Oui, puisque j'ai eu la chance de travailler en tant que directeur de la communication au théâtre d'Auxerre. Et donc, bah, c'est là que j'ai rencontré Manu, donc Emmanuel, qui s'occupait des relations publiques. Et puis,
Alors, il faut expliciter le titre, 450.
Alors, 450, voilà. Alors, voilà. On s'est lancé à Paris un peu. Il avait des velléités d'écriture, et puis moi, j'avais déjà commencé. Alors, on est parti comme ça, on s'est fixé à Paris un peu fou. C'est d'écrire des micro-nouvelles. Donc chaque micro-nouvelle ferait 450 signes, pas un de plus, pas un de moins.
Belle contrainte.
C'est une belle contrainte. Alors chacun a choisi le sujet qu'il souhaitait, et puis on est parti, et puis voilà, et puis c'est sorti.
Alors ensuite arrive Dans la tête de Robert Smith, dont il va être longuement question ce soir, c'est aux éditions Edilivre, et puis le tout petit dernier,
oui.
qui n'est pas si petit que ça, c'est Décibel, avec une très belle couverture,
ouais,
toujours des couvertures
de
très travaillées.
Steve Jurti, qui travaille aussi au théâtre d'Auxerre, et que je remercie, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui fait les couvertures, et elles sont remarquables, vraiment, ça aide aussi à la vente, qu'on le veuille ou non.
Oui. Décibel Note de Patrick Bénard, alors c'est un choix d'un certain nombre de chroniques parues dans Yon Mag.
Voilà, parues dans Yon Mag, voire même dans Yon Républicain, puisqu'il y a des comptes rendus de concerts, parfois, on en trouvera quelques-uns, que j'ai faites entre 2007 et 2011, qui s'arrêtent à août 2011, pour être précis. Et c'est une sélection de je l'ai axé sur le rock, mais que les gens ne connaissent pas forcément. Bon, il y en a qui ont retrouvé les Rolling Stones, Bruce Springsteen, enfin Neil Young, bon, etc., etc. Mais je voulais vraiment essayer de faire découvrir des groupes que moi j'aime bien, voilà, et que j'ai pu chroniquer dans Yon Mag.
Alors rentrons cette fois-ci, après cette présentation sommaire de Patrick Bénard, de l'homme et de l'œuvre, arrêtons-nous sur donc la fiction que tu as fait paraître en 2011, qui a été aussi, il faut le dire, bien accueillie par
oui.
les médias,
oui.
Ose le dire.
Ah ben oui, j'en suis déjà premier étonné, mais je crois que c'est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul livre qui a une couverture médiatique, même ou qui m'a un tout petit peu dépassé, parce que ça a bien marché.
Alors un magazine rock en a parlé.
Un magazine rock en a parlé par n'importe lequel, puisque c'est Rolling Stone. Fait une très belle chronique dessus. J'ai été chroniqué dans un autre magazine plus spécialisé dans la musique, le gothique, on va dire, qui s'appelle Obscure.
Sur les ondes, il faut le dire, une grande radio a parlé de Dans la tête de Robert Smith.
France Inter, oui, j'ai eu l'occasion d'être, non pas moi, mais on a parlé du livre en tout cas. Et justement, en se posant la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Robert Smith?
Alors, vous voyez, auditrice et auditeur, je n'avais pas menti. Patrick Bénard n'est pas n'importe qui, et son travail est reconnu et apprécié en haut lieu tout de même.
Puis France 3 Bourgogne, hein, m'a consacré un petit reportage au moment de sa sortie. Voilà, ça, c'est. Moi, j'étais ravi de tout ça, et puis. On est, ben voilà, quand on en parle, et puis il y a une républicaine, bien sûr, qui m'a consacré un portrait, mais bon, là, vu que je travaillais dans Lyon, on va dire que, hein, c'est pas de l'autopromo, mais enfin bon, bref.
Incontournable. Le livre dont nous allons parler ce soir, donc Dans la tête de Robert Smith, signé Patrick Bénard aux éditions Edilivre, le titre n'est pas naïf, c'est Dans la tête de Robert Smith. J'allais dire, quelle audace, quel culot, Patrick.
Oui,
c'est ce que je me suis dit. Il y a de l'ambition.
C'est ce que je me suis dit au départ. En fait, bon, c'est un peu gonflé. Et au départ, d'ailleurs, ça ne devait pas s'appeler comme ça, ça devait s'appeler La figure de proue. C'était un petit peu un titre un peu plus doux, mais c'est parce que c'est extrait c'est le titre de pornographie d'un des albums de Cure. Le titre s'appelait The Figurehead, ce qui veut dire la figure de proue, forcément Robert Smith, qui est la figure de proue de toute une génération. Donc voilà, c'était un peu plus doux. Et puis, ce livre, avant d'être publié chez Edilivre, à l'origine, il devait sortir dans une maison d'édition sur Marseille qui s'appelle Le Mot et le Reste, dont le directeur Yves Jolivet, et il devait sortir une petite collection que je montre là, même si vous ne pouvez pas le voir à la radio forcément, mais que Yannick peut admirer. Et donc c'était très court, ça devait être très court, donc c'était concentré sur pornographie. Et puis il a bien reçu le manuscrit, et il m'a dit, écoute, non seulement je le sens bien, mais je veux pas qu'il sorte dans cette collection-là, tu ailles beaucoup plus loin que ce que tu as fait là. Parce que là, t'as écrit un bouquin, t'es vraiment dans la tête de Robert Smith. Et il dit d'abord, ça va pas s'appeler La figure de proue, ça va s'appeler Dans la tête de Robert Smith. Ce qu'il m'a dit, je sais pas comment tu as fait, mais on a l'impression que t'es dedans, t'es transformé en Robert Smith. Alors, j'étais ravi pour un éditeur qui me dise pas et puis qui me pousse à continuer.
En fait, de même qu'un acteur se glisse dans la peau d'un personnage, l'auteur Patrick Bénard s'est glissé dans la tête de Robert Smith.
Oui, c'est-à-dire, tout le monde n'a pas vu, mais tout le monde a parlé, au moins entendu parler du film dans la peau de John Malkovich, qui est un film un peu dans cet esprit-là. Là, c'était vraiment se mettre dans la tête de Robert Smith et imaginer. Tout ce qu'il a pu imaginer, quel type de la réaction il a pu avoir au moment de la confection de ses albums et de sa vie depuis son origine. Alors, sauf que je fais démarrer le livre en 82, on pourra expliquer plus tard pourquoi.
Du immédiat stress.
Voilà, après je fais un bref retour en arrière et puis après on continue dans la logique et la curemania et puis jusqu'à nos jours où. Je me suis arrêté à peu près en 2008-2009, il est sorti seulement en 2011, mais il fallait bien s'arrêter à un moment donné.
Alors, il est quand même important de dire que Robert Smith, c'est le leader d'un groupe mythique, un trio des années 80-90, c'est le groupe Les Cure. Alors, tu les présentes, d'ailleurs, je te cite, comme des types hirsutes dans des costumes trop grands pour eux, maquillés à outrance, qui mélangeaient tout en subtilité des mélodies pop et légères, avec de sombres et tortueuses litanies désespérées. Voilà un beau raccourci.
Oui, ça. Alors c'est un beau raccourci sur la période où les Cure sont devenus extrêmement populaires. Sinon, j'aurais enlevé la partie plus légère, parce que à part leur premier album qui s'appelait Three Imaginary Boys, qui était plus pop. Ça commence à devenir très sombre dès leur deuxième album, avec ce que les purcuristes, dont je fais partie forcément, appellent ça la trilogie, c'est-à-dire 17 Seconds, Face et Pornographie. Et Donc en gros, ce qu'on a appelé l'album rose, l'album gris, l'album rouge. Donc c'est devenu de plus en plus dur, leur musique est devenue de plus en plus dure. Bon, voilà. Après, il y a eu, on pourra revenir si tu le souhaites dans le détail, et puis c'est seulement après, en 85, où la phrase que tu as citée prend son plein essor, parce qu'ils deviennent extrêmement, extrêmement populaires grâce à une suite de tubes très légers. Mais comme Robert Smith ne voulait pas renoncer à ce qu'était sa musique propre et assumer aussi son côté sombre, le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde finalement, et donc il mettait toujours des choses très sombres parfois. Et parfois, les albums pouvaient être très, très sombres. On le verra plus tard, Disintegration en 89.
Alors, petite mise en bouche, première étape musicale. Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes, Patrick, pour peut-être rappeler des souvenirs aux auditrices et auditeurs, fans de Cure, qui nous écoutent ce soir sur Radion?
Alors, ceux qui sont nés, qui avaient au moins 10 ans, c'est-à-dire c'est en 69, donc on va revenir en 79, 78, 79, le premier tube des Cure, qui a fait des polémiques, bien futiles maintenant, mais enfin, quoique, ça a eu des conséquences terribles. Le titre, c'est Killing an Arab. Alors là, j'entends tout de suite les gens qui écoutent Killing an Arab, mais qu'est-ce que c'est que ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Cure? Bon, non, c'est pas tuer un arabe, non, c'est un hommage à un roman, un formidable roman d'Albert Camus, prix Nobel de littérature, qui s'appelle L'étranger. Il fait son premier roman, il se retrouve en plus, je crois qu'il a eu le Goncourt, si ma mémoire est bonne, pour ce premier roman. L'étranger raconte l'histoire de
Meursault.
De Meursault,
c'est ça.
De Meursault, voilà, d'un personnage qui va tuer quelqu'un comme ça, sur la plage, sans volonté directe de le faire. Sauf qu'il se trouve que ça se passe, effectivement, comme Albert Camus vivait en Algérie. Vivait donc sur la plage en Algérie, à côté d'Alger. Bon, voilà. Et alors évidemment, Killing an Arab n'avait pas d'autre souci que de décrire l'absurdité de la vie que le fait de dire « je tue quelqu'un ». D'ailleurs, la première phrase la plus célèbre de L'étranger, c'est « aujourd'hui, maman est morte ». Ou peut-être hier, je ne sais plus. Voilà. Et donc le clip, enfin le clip c'était... Les clips n'étaient pas encore très, 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 très vifs, mais à la BBC, évidemment, ça a été interdit partout. Ça a fait polémique pendant des années, des années, des années, au point que maintenant, quand ils reprennent le titre, parce qu'ils le reprennent toujours à l'heure actuelle, en 2012, les Cure, mais ça s'appelle plus Killing an Arab, mais Killing Another. Il a tué quelqu'un d'autre. Pour pas créer de polémique, mais à nouveau.
Alors, une façon de lire L'étranger d'Albert Camus. Nous écoutons Killing an Arab, donc un choix de notre invité ce soir, Patrick Bénard, il est avec nous pour Dans la tête de Robert Smith, paru aux éditions Edilis.
Staring at the sea, staring at the sun, staring at the... Radion. Radion.
Killing an Arab par le groupe Cure. Et effectivement, nous allons rentrer dans la tête de Robert Smith avec toi, Patrick Bénard, notre invité ce soir. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les premières lignes de cette fiction, parce que tu ne parles pas de roman, tu parles de fiction, le roman s'ouvre sur des images violentes, voire barbares. Il est question du suicide de Ian Curtis, et alors une allusion, alors bon, si on a vu ce film, on sait vraiment de quoi il retourne, une allusion au film de Pasolini, Salò, ou les 120 journées de Sodome, où il y a des scènes abominables. Alors, pourquoi, et j'allais dire, c'est lié à la personnalité de Robert Smith, il est vraiment comme ça, hanté par des images extrêmement... affreuse, son mal-être était-il aussi épouvantable que tu veux bien nous le raconter?
Surtout à cette époque, oui. On est en 82. Il va tourner, je pense à Pasolini, mais il va faire son album à la fois le plus abouti, mais sans doute le plus qui pousse le plus. Ah, je vais y arriver. Qui poussera le bouchon le plus loin possible. Et puisqu'il le disait lui-même, si je voudrais faire un album que personne pourrait écouter, sauf moi, ou voilà, un peu comme Godard, si on veut citer Godard, qui voudrait faire des films qui seraient vus que par lui. Et donc il était dans cet état d'esprit-là, en 82, très dépressif.
C'est ça, et il parle même, enfin tu lui fais parler de musique dépressive.
Ah oui, complètement, et dépressive, mais il était dans un état très dépressif. Bon, parce que... Quand on fait aussi un groupe de rock, il faut savoir qu'à un moment donné, surtout quand on devient... Après, c'est pas encore super connu, mais ils commençaient à quand même avoir leur public. En France, ils jouaient à l'Olympia déjà, donc c'était déjà des salles tout à fait raisonnables. En Angleterre, ils étaient très très connus. En Allemagne, ils étaient très très connus. Et les tournées, c'est tout ça, c'est très épuisant. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon ben, et puis on vit en vase clos. Qu'est-ce qui se passe? Bon ben, c'est une rock'n'roll, hein, comme on dit. Alors, s'il n'y avait pas forcément trop de texte, parce que c'était pas trop son truc, parce qu'il a toujours eu la même petite amie tout le temps, ça c'est une, ça paraît assez incongru dans le monde du rock, mais c'est vrai. Mais par contre, drugs and rock'n'roll, avec
oui,
les boissons, les drogues et tout ça,
c'est pas de bière, whisky, voilà, cocaïne. Ben, c'est dommage quelque part que le rock soit entaché aussi par cette espèce de mode de vie incontournable passe par les excès et des dépendances.
Oui et non, parce que je pense que comme on écrit des livres, ça aide aussi à la création. Je pense que tout créateur a besoin d'un petit plus. Je vois pas quelqu'un, et si on remonte dans le lointain, même on pense à Baudelaire. Bon, on
en a parlé, oui, le poème Baudelaire. Du hachiche, par exemple.
Voilà, bon, voilà. Il y avait tous besoin de substances plus ou moins licites, effectivement. Il y en a qui fument aussi des paquets de cigarettes par jour. Voilà. Bon, c'est le petit plus qui amène le créateur à pouvoir faire quelque chose. Et je pense que à ce moment-là, Robert Smith, en plus d'être dépressif, donc avait besoin de prendre des choses pas très légales, et puis en plus de boire énormément beaucoup.
Il y a une esthétique de la dissonance, une sorte de revendication de la laideur ou du bizarre au sens baudelairien. Baudelaire disait « le beau est toujours bizarre » et Baudelaire, c'est milieu du 19e siècle. Robert Smith dit, je te cite Patrick, « je voulais fabriquer un son criard, horrible à l'écoute, je souhaitais que les gens aient envie de fuir dès les premières secondes ». Quelle étrange position tout de même.
Oui, ben c'était sa première idée, surtout sur cet album-là. Ouais. Vraiment aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, je crois qu'il est...
Mais c'est une expression d'une révolte?
Oui, c'est une forme de révolte. C'est une forme de révolte parce que je ne crois pas qu'il ait eu vraiment une envie de suicide, mais il voulait suicider le groupe. Au moins suicider le groupe. C'était au moins ça. Donc il fallait en finir. Alors jusqu'à aboutir à vraiment un non-retour. Et la tournée pornographie en 82 a été une chose absolument épouvantable. Et pour le public, et pour... Même si les amateurs dans le public adoraient ce qu'ils ont fait à ce moment-là. je peux en parler puisque je l'ai vécu. J'ai vécu un concert à l'Olympia en 82, donc je me souviens très bien. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est tout ce qui se tramait derrière, en backstage, comme on dit, hein, derrière les coulisses. C'est-à-dire que les trois membres ne se supportaient plus, ils se castagnaient, ils ne supportaient plus les rodistes, donc ceux qui montent et qui démontent le matériel.
LOL, il est déjà sous du matin au soir.
Simon Gallup est jaloux de Robert Smith parce qu'il s'est fait. Il a un autre copain, Steve Severin, qui est le bassiste d'un autre groupe qui s'appelle Suicide and the Banshees. Donc c'est plus le copain intime de Simon, donc il éprouve de la jalousie. Enfin, bon, ça peut paraître infantile comme ça, mais faut dire aussi que on est en 82-83, ils ont jamais que 24 ans. Hein. Et puis quand on sort d'un milieu modeste, comme tous, et puis qu'on commence à avoir une petite carrière, voilà. Ça... Donc ils sont un petit peu dans cet esprit-là, et surtout Robert Smith, qui est un petit peu devenu plus ou moins le leader, hein, de fait, même si c'était qu'un trio. Un trio, bon, on peut... Et c'est lui finalement qui a coproduit l'album avec Phil Tornoli. Du coup, les deux autres membres se sont sortis en plus un peu en retrait. Donc, d'où encore les tensions avec le manager, parce que le manager Chris Parry, quand il a écouté les premières bandes de pornographie, il a dit mais on va au suicide, quoi.
On
va jamais en vendre un. Ça va pas marcher. Jamais de la vie, quoi. Donc il a refusé. Alors il y a eu bataille, il y a eu voilà.
Mais l'avenir lui a donné tort.
L'avenir a donné tort à Chris Parry, a donné raison à Robert Smith. Mais il a fallu quand même qu'il pousse le bouchon très très loin jusqu'à un concert inoubliable à Bruxelles le 11 juin 82 qui aboutit à une véritable coupure de l'entité Cure. Pas du groupe, mais de l'entité.
Alors, et nous, si on fait une petite coupure Cure, qu'est-ce que tu nous proposes, Patrick?
Justement, puisqu'on est en pleine pornographie session, j'allais dire. on va pas parler de pornographie, on va parler un petit peu de l'album, avec un extrait de l'album, dont le titre The Figure Red.
La figure de
proue. Voilà, pour le coup, qui était s'appelé la figure de proue, lui s'appelait dans la tête de Robert Smith, mais. Je crois que je suis pas mécontent finalement que ça s'appelle dans la tête de Robert Smith. On va écouter The Figure Red, la figure de proue, où là il décrit tous ses cauchemars, quoi.
Nous sommes ce soir avec Patrick Bénard pour évoquer dans la tête de Robert Smith la fiction qu'il a fait paraître l'an dernier aux éditions Edilivre. Alors Patrick, il faut aussi dire que tu seras présent au Silex le 29 mars prochain. On pourra notamment, suite à cette émission, j'espère, non seulement aller écouter de la musique au Silex, mais surtout aller te rencontrer et se procurer tes livres.
Ah ben tout à fait, tout à fait. Il y aura au moins deux livres sur. Il y aura bien sûr Dans la tête de Robert Smith et le dernier dont on a parlé, Décibel Note. Il y aura au moins ces deux-là, ça c'est sûr. Et puis, bah oui, le 29 mars, le directeur du Silex a bien voulu m'accueillir pour une séance de dédicace qui a commencé à 20h, puis qui courra à peu près jusqu'à minuit. Et comme c'est le jeudi, bah, il y a toujours des concerts. Il y aura deux groupes qui vont passer, dont un qui m'est cher, qui s'appelle The Guilties, qui font un rock, comme on dit, qui détonne, quoi. Ça ressemblera pas du tout au Cure, même si un des musiciens adore les Cure. Mais donc je suis ravi, c'est un groupe d'Auxerre en plus, et qui commence à bien monter. Et puis il y aura un autre groupe qui s'appelle les Delight Dragons, et rock bien foutu aussi. Donc bonne soirée. Et puis entre chaque entraide, ben moi je serai là pour dédicacer, parler, discuter avec les gens, et puis... Et vendre mes livres, parce que c'est ça aussi.
L'information est passée, c'est jeudi 29 mars au Silex. Voilà. Merci Patrick pour ces informations. Alors on continue dans la tête de Robert Smith. Les punks gueulaient no future.
C'est vrai.
Pas d'avenir.
Absolument.
Et on a quand même vraiment le sentiment, sous ta plume, aux côtés de Robert Smith, le leader du groupe Cure, on a vraiment le sentiment que le héros, j'ai envie de dire qu'il est, il est le héros. Il a la peur de l'avenir, il a une vraie révolte, il a envie de tout péter. Hein? Mais avec qui Robert Smith a-t-il envie d'en découdre?
Ben, je pense un peu avec tout le monde. Avec tout le monde, c'est-à-dire à la fois psychologiquement, c'est-à-dire...
Mais il est malade quand même.
Et même lui-même.
Il est un peu malade quand même.
Ben, je pense
il a une forme d'autisme dont tu parles d'ailleurs.
Oui, autiste, ouais, ouais. Il y a une forme d'autisme, et surtout à cette époque-là. On se renfermait beaucoup, il pouvait rester très isolé, par exemple, sans discuter avec qui que ce soit. Sans intervenir, tandis que les autres allaient boire des bières ou comme ça. La scène la plus que je décris dans cette fiction, c'est au moment où il va cogiter, écrire les morceaux, écrire surtout les paroles, et où il s'enferme dans le studio avec dans une tente. Et il amène de la coke, il amène des packs de bière, et puis il n'en sort pas tant qu'il n'a pas accouché de ça. Quoi. Et il le fait. Et il se fait mal aussi, une forme d'autoflagellation de ce côté-là.
Et toi, il m'a rappelé Lautréamont, le poète Lautréamont, qui aussi ces poètes de l'autodestruction.
Complètement.
Et qui sont en révolte et qui, comme Robert Smith,
oui,
regardent un petit peu...
De haut,
l'effondrement d'une civilisation, d'une société, une sorte de réjouissance à voir le monde partir, comme on dirait familièrement, en live ou en vrille.
Oui, en vrille, oui. Et surtout que, bon, si on replace la situation en Angleterre à cette époque-là, c'est Margaret Thatcher qui débarque. Mmh. Et elle met à mal tout le monde.
Oui, c'est la dame de fer. Il parle de cette folle de Thatcher. C'est l'ultralibéralisme britannique des années 80. C'est les émeutes raciales. C'est les grèves brisées. Puis c'est aussi la guerre des Malouines pour la Grande-Bretagne.
82, on est en pleine guerre des Malouines. Et personne ne sait pourquoi on va faire cette guerre-là.
Oui, mais on ne peut pas dire non plus que le groupe Cure a eu des a tenu des positions politiques contre le pouvoir en place.
Mais comme beaucoup de ces groupes-là à l'époque, hein, je crois qu'il tout ce qu'on appelait la New Wave, le phénomène New Wave, ou le post-punk, ou le punk, nos futurs, c'était vraiment pour trancher, non pas vis-à-vis d'un monde, mais vis-à-vis d'un type de musique, ce qui est différent. Donc nos futurs est devenu la New Wave. Une nouvelle vague, parce qu'on c'est vraiment, on a eu affaire à des artistes, des groupes qui avaient des sentiments très bizarres, très renfermés. on cite les Cure, bien sûr, mais on n'oublie pas Joy Division et Ian Curtis, dont Robert Smith parle, et ils étaient très proches en même temps, ils se connaissaient bien, et il lui a dédié, d'ailleurs en 1980, il lui a dédié carrément un morceau en plein concert, en transformant complètement les paroles. Bon, ça c'est, voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc vraiment, ça marque ça. Ça marque quand on perd quelqu'un, et on perd aussi des repères. Parce qu'après, Joy Division est aussi devenu un mythe, comme Cure est devenu un mythe, mais un mythe vivant. Joy Division, c'est qu'un mythe. Très respectable par ailleurs, et c'est pour moi qui vais dire le contraire. Mais donc c'est quelqu'un qui est en révolte contre tout, y compris contre lui-même. Alors, mais comme il n'a pas envie non plus de s'engager, parce que je pense qu'on est à cette époque-là, J'essaie de mettre à sa place. On a le même âge. Moi, j'ai le même âge. J'avais pas forcément envie de m'engager dans quoi que ce soit. Politiquement, socialement, j'étais pas quelqu'un de très, très engagé. Alors, finalement, donc, je vois bien à peu près ce qu'il pouvait ressentir. C'est-à-dire, il faut quand même, mais malgré tout, il faut quand même l'exprimer. Alors, lui, il l'a exprimé par la musique. Et dire on va pousser ça jusqu'au bout, cette réflexion là jusqu'au bout, et on va faire ce qui est devenu pornographique et l'album ultime, disent certains, l'album ultime de cette période là.
Alors à propos de l'album pornographie, Robert Smith dans ta fiction dit, je cite, j'imaginais nos concerts comme un orgasme géant, une grande scène d'amour crue ou tendre, passionnée ou désinvolte suivant les soirs.
Oui, c'était à peu près le reflet de ce qu'il voulait faire en concert. C'est-à-dire comme quand on fait l'amour, quoi, finalement. C'est une lente montée jusqu'à l'orgasme. Alors après, soit y a un cut, et puis ça on laisse à l'érotique, soit on devient pornographique. Comme le titre de l'album. Et si ceux qui ne connaissent pas la pochette de l'album, elle est axée beaucoup sur le rouge, sur des couleurs à la fois froides et fortes.
Le contraste du noir, du jaune-orange, que l'on retrouve sur la couverture
du livre. Bah oui, je voulais un petit peu comme ça. Et puis, où il y a beaucoup de rouge, et le rouge, c'est aussi le symbole du sang. Et le sang, il revient fréquemment dans les textes de Robert Smith. Ça va même jusqu'à, pour être encore parler cru, les règles des femmes aussi. Donc tout ça, c'est son univers pornographique. Alors, c'est ce qu'il veut essayer de retranscrire en concert. Et comme c'est tellement tendu dans le groupe, forcément, ça passe ou ça casse. Alors, parfois, ça a cassé. Parfois, ça a passé jusqu'à ce 11 juin à Bruxelles, dont j'ai déjà cité tout à l'heure.
Alors, une vague pop ce soir sur les ondes de Radion. Patrick, on s'en fait une vraie de vague. Qu'est-ce qu'on écoute de Cure maintenant ?
Alors là, on connaît toute la dépression de Robert Smith, mais il faut dire qu'il a su un petit peu quand même. Justement, il n'a pas voulu abandonner l'entité Cure. Alors, il est parti jouer avec le groupe Siouxsie and the Banshees pendant un moment, en étant guitariste. Et puis il a cassé toute l'image à deux. Donc là, il est resté tout seul avec Lotte Lurst, son ami d'enfance, et ils se sont mis à faire des petits trucs pop. Et puis paf, ça a marché, mais alors terrible. Ça a marché, ils s'y attendaient même pas. Ils trouvaient en plus, c'était tellement débile les paroles, ils ont dit ça va jamais marcher. Là, à l'inverse, Robert Smith a eu tort, parce que c'était bien vendu par Chris Parry aussi, leur manager. Et là, ça a cartonné sur les ondes des radios, et là, on arrive à 85, où Cure s'est complètement reformé, ils sont 5 maintenant, ils donnent un concert à Athènes fabuleux,
Dans le
stade antique, fabuleux. Donc, tous les que ce soit le Melody Maker en Angleterre ou Libération en France sont dithyrambiques. Et là, ça débute la Cure Mania. Alors, au point que en 86-87, alors leur album le plus connu, c'était The End of the Door, c'est celui qui a vraiment tout déclenché en 85. Mais ils font leur album suivant qui s'appelle Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Qu'ils enregistrent en France, à Miraval, dans le Var, Et c'est là qu'ils vont commettre, j'allais dire, peut-être pour moi, à mon sens, la quintessence même de la pop. De la pop, de faire un tube pop inoubliable, tout en restant avec un côté quand même froid dans les paroles, parce que ça raconte une histoire qui ne se termine pas bien. Et alors le morceau s'appelle Just Like Heaven. Alors, les choristes vont dire bon là évidemment ah bah oui ça oui évidemment. Mais et quand on regarde le clip, c'est pas très gai, c'est tout à fond noir tout ça. Et puis c'est l'histoire d'un amour qui disparaît noyé dans la mer comme s'il avait rêvé. Bon, voilà. Alors Just Like Heaven. Alors pour les puristes et non pas les curistes, à l'époque, ceux qui regardaient la télévision, c'était le générique de l'émission Les Enfants du Rock, animée par Antoine Decaune. Et c'est Antoine Decaune qui avait demandé à Robert Smith de bien vouloir faire le générique. Donc à l'époque, il n'y avait pas de paroles. Mais comme musicalement, ça fusionnait de partout en disant « mais c'est génial », mais il a fait des paroles, il l'a mis sur l'album. Et c'est devenu « Just Like Heaven ».«
Just Like Heaven » par les Cure.
Au cœur de la Bourgogne.
Vous êtes toujours à bord de Wagon Livre, un Wagon Livre ce soir un peu pop, un peu new wave, et pour cause, nous parlons du livre de notre invité Patrick Bénard, Dans la tête de Robert Smith aux éditions Edilivre. À l'instant, c'était Just Like Even. Patrick, le temps passe vite avec toi, avec les passionnés, le temps passe vite. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur l'identité, la constitution de ce groupe, parce que quelque part, c'est comme une grande famille. D'ailleurs, tu parles de noyau familial. Alors, il y a Robert Smith, donc le leader. Il y a le bassiste Simon.
Simon, qui est devenu très rapidement un ami, qui était au départ un rodiste du groupe, mais qui était déjà un proche, puis qui a intégré très vite le groupe. Puis, en fait, qu'il a jamais quitté, il est parti seulement 18 mois hein, du groupe, au moment 82-83, quand ils sont bagarrés avec Robert Smith. Mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. Il l'a rappelé très vite.
Alors, la figure préoccupante du groupe, c'est LOL. Alors, LOL, c'est un ami d'enfance du leader Robert Smith. Et le problème de LOL, c'est qu'il est ivre, le matin et il est dans un quasi-coma éthylique le soir. Et le problème, c'est que Robert Smith va être un peu obligé, sous la pression des autres membres du groupe, de le chasser de la formation.
Ouais. Ça va être quelque chose de terrible, et surtout que ça va se produire au moment... D'ailleurs, je crois que l'album reflète ça aussi. Leur deuxième plus bel album, à mon avis, aussi pour moi, l'album s'appelle Disintegration. Désintégration, hein, c'est déjà, à mon avis, il avait dû prévoir le coup.
Donc Désintégration, c'est en 89.
Et c'est là que les musiciens lui disent, écoute, c'est eux, c'est lui ou nous, quoi. Parce qu'on peut pas continuer, quoi. Alors il est crédité quand même sur Disintégration, mais en fait comme autre instrument. C'est-à-dire qu'en fait, il a rien fait, quoi. Il est dessus, il a fait un petit peu de clavier.
Enfin, il a quand même traîné Robert Smith en justice.
Il a traîné Robert. Ah bah oui, parce qu'il a voulu essayer de récupérer le nom du groupe de Cure, puisqu'il avait fondé ensemble. Mais il a été débouté à chaque fois. À chaque fois, il a jamais eu gain de cause dans aucun de. Donc il voulait récupérer des royalties pour essayer de revivre, pour essayer de lancer un nouveau groupe. Alors il a refait d'autres groupes qui n'ont jamais marché. Il a suivi moult. Multicure de désintoxication. Oui. Il va bien mieux aujourd'hui, et au point que Robert Smith était tellement, il s'en est voulu des années, ça a été très très dur, je pense, pour lui. Et puis ils se sont rabibochés, ils sont redevenus amis, au point que en 2011 ils ont fait une série de concerts où ils reprennent leurs trois premiers albums, sur Imaginary Boys, 17 Seconds et Face. Et sur Face, sur l'album entier de Face, LOL Tollers joue des claviers. Et ça, c'est un grand moment. Moi, j'ai vu des extraits vidéo sur YouTube. Pour moi, qui suis un vrai curiste, si on peut dire, c'est un grand moment, un moment assez bien cadré. Il n'y a plus que LOL Tollers, c'est Simon Gallup et Robert Smith. On les voit bien tous les trois. Je dis waouh. Moi, j'étais impressionné.
Comme tout le monde, Robert Smith a ses faiblesses, il a peur des araignées.
Oui, ouais. On a tous nos phobies, il a peur des araignées. Lorsqu'il fait son Disintegration, il a fait un tube, il y a un tube extraordinaire avec ça, avec le Lullaby.
Qui est une berceuse, en fait.
Oui, c'est une berceuse. Alors quand on voit le clip où il se fait littéralement dévorer par une araignée.
C'est un fantasme.
C'est un truc terrible. ça fait partie des petites choses comme ça. Qu'il n'aime pas du tout. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui a provoqué véritablement, un certain temps, la disparition du groupe, de la scène ? Est-ce que c'est la montée de l'électro et la notoriété des DJ, et donc le changement de goût du public, ou est-ce que il y a eu un phénomène de lassitude ou de médiocrité du groupe qui a produit des albums
nettement moins... Non, c'est-à-dire que si on revient, ils ont arrêté de faire vraiment de la scène entre 82 et 84, mais lui n'a jamais arrêté de faire de la scène puisqu'il est devenu le guitariste de Suxy and the Bunchies. Et donc, il a enregistré un double album live qui s'appelle Nocturne, et tout un album entier avec Suicide and the Bunchies. Donc il était devenu le guitariste attitré. Mais le problème, c'est qu'en même temps, il continuait à faire des petits trucs pop avec LOL Tollers. Là, on est toujours entre 82 et 84. Après, il a refait un groupe plus ou moins branlant, on va dire, qui tenait avec un album qui s'appelle The Top, mais qui était qui n'est pas leur meilleur album, même s'il s'appelle Le Top. Et puis c'est vraiment bon, et puis c'est vraiment en 85 où là ils se sont reformés, ils ont dit bah là ça y est, c'est parti. Alors et puis c'est là qu'ils ont connu la gloire et encore la gloire, la Curemania. Vraiment, on a dit la Curemania en 87-88, c'était la Curemania. Et en 89, Robert Smith, qui veut encore choquer, qui veut provoquer, on a dit on va faire un album comme si c'était pornographie, et ça va être Disintegration. Et effectivement, Disintegration, c'est leur album le plus sombre qu'ils aient fait depuis pornographie. Et alors, de nouveau, le manager tout fou, hors de question, ça ne va jamais marcher. Et c'est sans doute l'album qui s'est le mieux vendu de tous les albums de Cure, au total. Et puis, Acid Valley, ils vont continuer toujours dans le noyau familial, avec le retour de Simon, avec Boris Williams, qui est marié avec la sœur de Robert Smith. Bon, voilà, tout ce petit monde va se balader. Et puis, on va arriver jusqu'aux années 2000, où ils font un album où on dit « cette fois, c'est terminé », il s'appelle « Bloodflower 2000 », en même temps, avoir 40 ans pour lui, c'était terrible. Donc, il a dit « on arrête ». Et puis, faux arrêt, il revient en 2004. Alors, grand retour, c'est un petit jeune qui a réussi à les faire revenir, qui jouait qui produisait du métal. Le métal, là, c'était « qu'est-ce que ça va être ?» Et puis, en fait, ça donnait un double album extraordinaire, qui s'appelle The Cure, tout simplement, qui est là.
Oui.
Dont on va, peut-être s'ils étaient d'accord, écouter un morceau, et pour bien montrer à la fois le changement de son, parce que ça sont vraiment beaucoup, beaucoup plus dur, mais qu'il ne renie rien à ce qu'il a fait. Le morceau s'appelle Lost, perdu, et ça n'a rien à voir avec la série en question. Et voilà, ça dit tout de ce qui est encore Cure.
Alors, on va... Avant d'écouter Lost, je rappelle les références, parce que c'est la fin de votre livre, Patrick. Je rappelle, donc, Dans la tête de Robert Smith, c'est aux éditions Edilivre de notre excellent Patrick Bénard, spécialiste de Cure, qui s'est donc glissé dans la tête du personnage dont il a longuement parlé ce soir devant notre micro. Et puis, plus récemment, Décibel Note, aux éditions The Book Edition, ouais. De Patrick Bénard, que vous pourrez rencontrer le 29 mars au Silex. Et donc là, nous allons nous perdre en écoutant donc un titre, ouais. Lost. Merci Patrick.
Merci, c'est moi.
Avant de nous séparer, je voudrais signaler une conférence qui est organisée par la bibliothèque de Tonnerre et la librairie Plume et Images. Effectivement, le 28 mars prochain, dans une semaine, à 20h, au Conservatoire de musique de Tonnerre, l'historien Jean-Luc Dauphin reviendra sur l'histoire du château de Mône, ce pur chef-d'œuvre de forme pentagonale dans le Tonnerrois. Conférence donc mercredi 28 mars à 20h au Conservatoire de Tonnerre. L'entrée est libre. Renseignements et réservations au 03 86 55 03 82 ou 03 86 55 0046. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, moi aussi, dans une semaine, mercredi 28 mars à 21h. Un document tout à fait exceptionnel, puisque je vous proposerai un entretien que j'ai enregistré à Dijon en février dernier avec Dominique Fernandez. Dominique Fernandez est romancier et essayiste, il est membre de l'Académie française, et je l'ai rencontré à l'occasion de la parution chez Grasset de son livre Transsibérien, puisque en mai 2010, Dominique Fernandez, accompagné d'une vingtaine d'écrivains, de photographes, de journalistes, d'acteurs, s'est embarqué au départ de Moscou à bord du Transsibérien qui les mènera donc à Vladivostok, capitale de la Russie d'Extrême-Orient. 3 semaines donc sur les rails. Et de découverte en réflexion, eh bien, Dominique Fernandez nous livrera, dans l'entretien que je vous propose la semaine prochaine, eh bien, un grand nombre de références littéraires et historiques autour de l'âme slave, autour de la Russie. Alors, la semaine prochaine, à bord de Wagon Livre, et oui, avec une émission littéraire qui porte ce titre, eh bien, nous embarquerons, nous monterons à bord du Transsibérien, de la Place Rouge à Tchekhov, de la dictature stalinienne à la terrible beauté sibérienne, en passant par Nijni Novgorod, Irkoutsk et le fleuve Amour. Eh bien, Dominique Fernandez évoquera les écrivains et les penseurs Gautier, Dumas, Gorki,
Tolstoï et en toile de fond persistante, l'ombre inquisitrice du passé soviétique. Rendez-vous donc mercredi 28 mars prochain à 21h à bord de Wagon Livre sur votre radio locale, Radion 90.5. Merci de votre fidélité, excellente soirée en musique. À la semaine prochaine, au revoir. We'll be right back.